gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Amis auditeurs, amis auditrices, c'est la causerie, c'est le retour du direct, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Donc la causerie, avec à la technique ce soir, Clara.
Bonsoir.
Oh, on ne t'entend pas ?
Si.
Ah bon ?
Bah si, je m'entends moi.
Ah, là c'est mieux. donc Clara, la technique. Nous avons autour des micros Jonathan.
Bonsoir.
Fab.
Salut.
Et moi-même, Jean-Yves, bonsoir. Donc, avant de commencer, on fait comme tous les dimanches, on vous rappelle comment nous contacter, tout ça, tout ça. Donc, si vous voulez nous contacter, si vous êtes une asso, etc., etc.,
artiste, ou même pas qu'une asso, une artiste, quelqu'un qui a des choses à dire.
Qui que tu sois, si tu as envie de nous contacter, ça se passe à La Causerie Canu, en tout attaché et en minuscule, pardon. Donc lacausericanu@gmail.com pour nous retrouver pour retrouver tous les podcasts, etc. Ça se passe sur le blog de la causerie, sur les blogs de Radio Canu. Donc c'est à blogs au pluriel .radiocanu.org/lacausserie où vous passez par le site internet de Radio Canu. Il y a un petit onglet les blogs de Radio Canu et vous y trouverez enfin la causerie. Voilà.
C'est bien dit.
C'est bien dit. Hein. Et on a aussi un espace sur un réseau socio-commercial, comme diraient certains et certaines. Donc voilà, c'est juste les podcasts à chaque fois que vous y retrouvez. Donc si vous voulez nous contacter, vraiment, c'est le mail ou alors passer par le blog, c'est bien mieux. Et ben voilà, je crois qu'on a donné toutes les informations.
Oui.
Et nous commençons. C'est Jonathan qui commence par nous parler d'un dessin animé.
Mais oui, parce que à la causerie, moi j'aime bien discuter de dessins animés.
Générique peut-être.
Peut-être. Peut-être.
Peut-être pas.
Et donc voilà, hein, c'était le générique d'une série animée, Mr. Pickles, parce que vous savez, j'aime bien parler de dessins animés dans la causerie, donc South Park, et bon bah voilà, Mr. Pickles là, par exemple. Alors qu'est-ce que c'est ?
A priori déjà c'est un gros morceau de death metal bien gras.
C'est ça. Ça commence comme ça, voilà, ça commence comme ça avec des petites images toutes mignonnes de gens qui se font détruire, tout en dessin animé, hein. Mais alors des intestins qui sautent, des côtes cassées, des crânes fondus, des... Voilà, Mr. Pickles c'est quoi ? C'est qui ? C'est un chien. Un superbe chien type berger, noir et blanc, qui est le chien d'une famille, la famille Goodman, dont le petit garçon est handicapé, hein, il a un problème de jambe, et donc il est le protecteur de ce petit garçon, donc Tommy Goodman, dont les parents s'appellent Beverly et Stanley, et le papy s'appelle Henry, alors attention, Gobble Blobber. faut le prononcer avec un truc dans la bouche. Pardon. Et donc, ils ont aussi, enfin, Mr. Pickles a aussi un esclave du nom de Steve. Voilà. Pourquoi il est un esclave ? Eh ben, parce que c'est le maître des enfers et qui vit dans une tanière où il réunit tous les objets de sa créativité infernale. Donc, reconstitution de corps à partir de plusieurs, divers démons, divers morts vivants. Enfin, c'est très, très éclectique, Mr. Pickles.
Donc, le chien, c'est le maître des enfers.
Le chien est le maître des enfers. Mais alors, si ça s'arrête là, parce que, bon, enfin, je parle rarement de séries juste parce qu'elles sont esthétiques ou juste parce que là, c'est extrêmement esthétique, hein, il faut le dire aussi, le gore est esthétique dans cette série. Mais c'est aussi une série qui fait un petit peu, qui fait réfléchir un peu comme beaucoup de dessins animés pour adultes, mais je vais en parler ensuite. Et c'est donc une personne, enfin, Mr. Pickles, c'est un chien, donc pas un humain, qui venge un petit peu la société. Quoi. Toutes ces victimes sont à un moment donné ont un vrai problème. Soit sont des tueurs, des pédophiles, ou alors des sociopathes. Ils s'attaquent aussi aux machos. Ils s'attaquent aussi. Enfin voilà, Mr. Pickles détruit tout ce qu'on aimerait détruire parfois. D'accord. En fait, c'est un pur exutoire de voilà, c'est un pur exutoire de violence parce que c'est vrai que c'est très violent. Le thème du générique est un petit peu à l'image de la série. Et voilà, donc bon, pour en venir un petit peu sur la trame de cette série, c'est une série qui a été créée par Will Carsola et Dave Stewart et dont la première diffusion a eu lieu en 2013, donc le premier épisode, et puis ensuite a été diffusée par Adult Swim dont j'ai parlé en 2014. Et comporte 3 saisons de 10 épisodes, une en 2014, une en 2016 et une en 2018.
C'est un peu la particularité souvent des séries Adult Swim, c'est qu'elles ne sont pas tous les ans, elles sont souvent un an sur deux.
Voilà, ils laissent les créateurs le temps de faire les choses. Et du coup, plutôt bien, ouais, parce que c'est vrai que même au bout de la troisième saison, eh bien, la série ne perd pas de son panache, ni de sa gaieté, j'ai envie de dire. Parce que oui, c'est une série où il y a beaucoup de joie de vivre malgré tout le gore. Et c'est pas la seule parce que voilà, Adult Swim, on en parle un petit peu. C'est à la base, c'est un programme d'animation pour adultes et adolescents qui intervient sur Cartoon Network, la chaîne américaine, à partir de 23h. Et comme le programme fait un gros carton, il est racheté par UPN et il est lancé aux USA en 2001 en tant que programme indépendant pour adultes. Et comme il fait un gros carton, eh bien, c'est racheté ensuite par Nielsen Media Research, le groupe, en 2005. Et ça devient une chaîne sur laquelle le premier animé diffusé est Cowboy Bebop.
Bah oui.
Donc, qui est quand même c'est un manga assez connu. Sur une femme flic.
Ouais.
Enfin, c'est.
Ouais, enfin.
Chasseur de primes.
Chasseur de primes,
c'est
plus que flic.
Un peu entre les deux, quoi. Et bon, c'est assez rock'n'roll. La BO est géniale, hein. Et c'est. C'est pour adultes, hein. C'est la nénette est hyper sexy. Il y a du gore, il y a du violent, il y a tout ça.
Ouais, puis surtout, c'est un western trash, quoi.
C'est un western trash.
On va dire ça comme ça, mais. Oui. Voilà,
Moderne western trash.
Ouais, parce que c'est pas l'époque du western. Bon, bref, vous le découvrez, mais c'est très trash, c'est cru. C'est d'ailleurs Cowboy Bebop, c'est ce qui était Ken le survivant si c'était pas passé par le Club Dorothée.
Oui.
C'est-à-dire, c'est beaucoup plus trash en réalité, et en fait, c'est un peu le pendant américain de Ken.
Ah, mais voilà. Totalement. Il y a énormément de séries comme ça qui interrogent un petit peu, qui sont un petit peu... Parce que la violence dans le dessin animé, on s'y attend pas forcément. Et en réalité, c'est un des médias les plus efficaces pour pouvoir le diffuser sans être dans le choc direct. Donc c'est pour ça... Après, il n'y a pas que ça. Alors, j'aimerais aborder 2 choses. D'abord, le fait que, oui, c'est utile d'utiliser le dessin animé comme média, mais je vais y revenir. Mais aussi parce que ça génère énormément de thunes. Parce que c'est un marché qui, depuis les années 90, est en train de s'étendre. Et donc, on a, par exemple, quand on regarde dans les séries animées pour adultes les plus connues, par exemple Robot Chicken, Metalocalypse, Rick et Morty, par exemple, ce sont 3 séries issues d'Adult Swim.
Happy Tree Friends.
Happy Tree Friends également, qui a été rachetée parce qu'à la base, c'était une série indépendante de youtubeurs. Et elle a été d'abord rachetée par MTV G4 avant d'être rachetée par Adult Swim. Donc Happy Tree Friends, hein, pour un petit truc d'amateur, ça a mis... c'est super gore, c'est monstrueusement gore, ça a peu de sens en réalité, mais les images sont très jolies. Et pour un truc qui était à la base une production amatrice, c'est devenu un vrai enjeu de thunes, quoi.
Ouais, business, ouais.
Et quand on regarde par exemple Simpson, Family Guy, Futurama, c'est la Fox. MTV, c'est aussi Daria, en plus de Happy Tree Friends. Et puis on oublie le Saint-Péternel Netflix avec Archer et puis d'autres séries qui apparaissent petit à petit, là, puisque c'est le grand boom. Et on a aussi le Comedy Central, donc Drawn Together, South Park. Donc là, on est un petit peu plus dans le trash. Alors, on voit qu'il y a des orientations. Hein. La Fox, c'est quand même plus familial. On va dire qu'en ce qui concerne Adult Swim, on est plus dans le cucu, caca, pipi, gore. Dès qu'on va sur Comedy Central, on est presque dans le politico-gore. Donc voilà, ouais, c'est des prises de parti de la part des groupes.
Voilà. Et c'est marrant parce que... Attends, je fais une... Mais Family Guy, c'est la Fox ?
Ouais.
Oui.
En fait, c'est...
Non, mais c'est... Alors, je ne sais pas si tout... enfin, les auditeurs et auditrices connaissent, ouais, mais alors, effectivement...
C'est les Griffins en France.
Parce les Griffins.
Oui, les Griffins. Souvent,
alors, c'est marrant parce que, alors, finalement, ça représente un peu la famille américaine, un peu réac et tout, mais en même temps, c'est pas glorieux pour eux, je veux dire, quoi.
Non, mais comme c'est les marrant. Simpsons, tu vois, qui va être un petit peu parodié. À la différence de... j'ai pas réussi à trouver qui avait produit au départ, c'est pour ça que je mets ça sur le dos de Netflix, mais je sais que c'est passé à la base. American Dad. Qui est un petit peu plus violent, notamment avec le personnage de Roger.
Et c'est Seth MacFarlane, c'est le même que les Griffins.
Et voilà. Donc tu vois, du coup, finalement, ça se... Voilà.
Mais en fait, il faut aussi doser quelque chose, c'est que il y a eu un grand marché dans les années 90, surtout avec l'émergence des Simpsons et de South Park. Donc beaucoup de chaînes américaines se sont lancées et ont lancé leurs programmes. Sauf qu'ils se sont fait dépasser par leurs monstres, comme ils disent. C'est-à-dire qu'ils ont mis, à l'antenne, par exemple, les Griffins, Family Guy, et la Fox a plusieurs fois essayé de les arrêter. Sauf qu'à chaque fois, ils ont des millions de gens qui écrivent en disant « Mais non, vous n'avez pas le droit !» Et ils sont allés même plus loin, parce que pour Family Guy, ils ont même fait financer la saison 15, je crois, par leurs fans. En disant « Comme la Fox ne veut pas nous donner les sous, et ils veulent bien nous programmer, mais pas nous payer. » Donc ils ont dit aux gens, envoyé une sorte de crowdfunding, et ils ont eu plus de fric que quand c'est la Fox qui leur donnait de l'argent. Donc ils ont une vraie base de fans, ce qui fait que ces séries deviennent quasi intouchables, quoi qu'elles fassent. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que du coup, au départ c'est pour faire du fric, mais après, c'est dur de les renlever de l'antenne. Quoi.
C'est excellent que tu en parles, parce que j'aimerais renvoyer un article de Télérama du 8 décembre 2016 qui a été mis à jour le 1er février 2018 par Jérémy Maire, et en fait qui parle un petit peu de la Turner Company, donc la Turner Company qui possède aussi CNN et TMC, qui est une petite chaîne qui possède également Adult Swim. Soyons clairs, pourquoi je vous parle de la Turner Company? Parce que Adult Swim. Et en fait, c'est une petite chaîne qui provoque un gros malaise. Pourquoi? Parce que c'est une petite chaîne qui du coup recrute, qui du coup a du monde, donc des financiers qui viennent faire des plans, et puis des créateurs. Et en fait, là-dedans, ils ont des absolus connards, excusez-moi le nom. Donc eux, ils ont leur propre connard, Mike Lazzo, qui a essayé de faire passer à travers les productions, du coup, des propos, idées racistes, sexistes, tout en ayant des comportements, lui, avec ses employés, en refusant l'emploi des femmes, etc. Donc voilà, il y a quand même... C'est un petit milieu où... C'est pas propre, c'est quand même de la grosse production, c'est quand même du Hollywood.
Oui, c'est ça, faut pas le glorifier, quoi. C'est juste.
C'est la merde derrière aussi. Voilà, ça a l'air d'un dessin animé comme ça, mais on est déjà dans une production pour adultes, donc pour consommateurs, direct. Et donc, du coup, à partir de là, je me suis posé la question, mais pourquoi moi j'aime ça quand même? Parce que quand même, j'adore les dessins animés pour adultes.
On revient sur le fait que c'est Mr. Pickles que t'aimes bien, pas le truc du gars.
Précision. Oui, c'est vrai.
On reprend.
J'aime beaucoup les dessins animés pour adultes. J'ai du mal avec Mike Lazzo. Soyons clairs, remettons les choses à leur place.
Mais d'ailleurs, finalement, ça n'a même pas marché au final ce qu'il a fait.
Et d'ailleurs, il s'est fait virer. Alors, le petit point positif, c'est qu'il s'est fait virer de la chaîne. Donc, voilà. Enfin, on lui a dit au revoir, tu reviens pas. Il a dit bon, d'accord. Voilà, on va peut-être faire comme ça. Et par contre, moi, là où ça me plaît. Donc c'est, voilà, on ne peut pas nier le fait que ce soit un business, que ce soit quelque chose qui corresponde à une demande, etc. Que le dessin animé pour adultes va bien dans une société de consommation qui vise l'adolescent comme on en connaît des tonnes. Ceci dit, pourquoi je m'intéresse particulièrement à ce média ? Eh bien parce que finalement, des chaînes comme ça-là, des médias comme ça-là, essayent de viser un public jeune, donc actif, donc qui est techniquement en train d'être en plein essor politique au sens large, c'est-à-dire en train d'organiser sa propre vie, sa propre société, faire des gosses, tout ça, vous savez, les trucs qui font qu'après, il faut prendre des décisions pour tout le monde. Et du coup, ben, quelque part, ça permet d'amener de manière plus facile et moins censurée déjà certains sujets courants, quotidiens, dont on ne discute pas forcément beaucoup, d'amener du second degré aussi, dans le, ben voilà, finalement, dans l'image choquante qu'on nous sert à longueur de temps. Là, quand c'est un dessin animé, ben, on peut prendre le recul, on peut souffler deux minutes et se dire, ouais, c'est un cul, mais il est dessiné, quoi. Enfin, il n'a pas des couleurs normales, c'est bon, je peux relâcher la pression sexuelle, là. Ouf. Voilà. Et pareil pour le côté artistique, c'est-à-dire que c'est quand même un dessin animé, c'est une performance, c'est quelque chose qui peut être très beau. Quand je disais Mr. Pickle, c'est gore et c'est beau parce que c'est gore, c'est parce qu'en effet, dans l'animation, dans les gestes, il y a tout un travail quand on s'y penche un petit peu quand même pour rendre les choses crédibles et belles, et même si le sujet est gore. Et du coup, voilà, il y a cet effort-là qui est dans le dessin animé pour adultes qui est quand même important. Et donc, allez voir Mr. Pickles, allez voir Metalocalypse, regardez les épisodes de Robot Chicken, allez voir du Rick et Morty, allez voir du Adventure Time. Enfin, voilà, allez-y, il y a du monde.
Regardez Robot Chicken, ouais.
Regardez Robot Chicken, regardez Archer.
C'est... Mais ça se trouve, genre, sur des trucs pas payants ?
Alors, ouais, totalement. Okay. Toutes les séries dont je vous parle actuellement sont disponibles sur des supports... pas forcément très légaux, mais dans tous les cas, très accessibles.
Alors, il y a quand même un truc qu'il faut dire, parce que Adult Swim est très doué. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont hyper piratés. Mmh. Ils le savent. Par contre, ils détestent, parce que c'est là qu'on voit que c'est aussi quand même des créateurs, ils détestent l'idée qu'on ait les trucs en très mauvaise qualité. Donc, ils se disent, de façon quasi officielle, que c'est eux qui mettent en ligne le truc en haut de gamme pour dire, au moins regardez-les dans de bonnes qualités, quoi, parce que franchement... Voilà.
Ah oui, si vous allez sur des sites de type voir film, enfin, je dis pas ça, par exemple, hein, et ben, c'est possible que oui, la source du lien soit directement Adult Swim.
Ouais, okay. En fait, ils sont conscients du fait d'être très piratés, donc du coup, mais c'est bien d'avoir cette démarche, de dire, bon, plutôt que de regarder de la merde un peu pompée à droite à gauche, voilà, là, t'as le fichier correct, c'est nos créateurs ont fait du boulot, donc c'est bien, je trouve.
Puis ils disent, il y a un truc qu'ils disent aussi chez Adult Swim, davantage que chez la Fox ou quoi, c'est que eux, les épisodes, ils ont déjà diffusé.
Bah oui.
Ils ont déjà été payés pour ça, ils ont déjà fait l'audience qui était attendue d'eux. Donc finalement, la rediffusion sur Internet,
c'est que finalement, ça te fait connaître,
c'est
etc.
Ça. C'est qu'on créera de la vente d'objets dérivés, etc.
Il ne faut pas oublier que Netflix a émergé comme ça. Hein. Mmh. Bizarrement, tout ce que Netflix produisait se retrouvait en ligne.
Donc,
très facilement.
voilà. Au final.
Et puis finalement, ils sont au numéro 1 maintenant. Voilà. Comme quoi, ça, c'est aussi une technique marketing. Hein.
C'est ça. Mais bon, que ce business capitaliste ne vous empêche pas de profiter de la bonne parole. Sur ce.
c'est beau.
Et bien, on passe à.
Oui, mais il faut qu'elle l'annonce parce qu'elle ne sera pas
là. Ah oui,
après.
C'est vrai. Et d'ailleurs, chers auditeurs, je vous fais des bisous et vous allez écouter Golden Brown de The Stringers.
Refais-la nous, s'il te plaît.
Vous avez écouté Golden Brown de The Stranglers. Des gens qui stranglent. Ok.
Ça marche.
Salut.
Salut.
Texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. The
pictures she's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Toujours à l'écoute de Radio Canus, c'est toujours la causerie, comme tous les dimanches de 22h à 23h.
Non, pas tous les dimanches, parce qu'on sera pas là un petit moment après.
Oui, enfin, avant qu'on soit pas là, on était là tout le temps, ok?
Ok.
Non, mais oh.
Ouais, gros.
Donc, la suite, c'est Fab qui la prend. Et toi, tu veux nous parler du climat, tiens.
Ouais.
Genre,
bah,
on n'a pas assez chaud.
Mais non, il fait froid en ce moment, vous trouvez pas?
Oui.
Alors, bah oui, il fait froid à La Réunion. Et ça, c'est vrai. C'est là une grande vague de froid, La Réunion. Pendant que nous, on a une grande vague de chaud sur quasiment toute l'Europe. Et ça, c'est le temps très très loin parce que ça va même jusqu'au Japon et une partie des États-Unis. C'est-à-dire que l'hémisphère nord bouillonne en ce moment et vit un été largement au-dessus des normales de saison, comme on dirait dans les trucs météorologiques de la télé. Alors, je vais juste rappeler comme ça ce qu'est une normale de saison, parce que j'adore quand on dit ça. Une normale de saison, c'est les 10 dernières années, vous faites une moyenne, ça devient la normale de saison. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous dit que vous êtes au-dessus des normales de saison, c'est que vous êtes au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. Donc, en fait, vous pouvez passer votre temps à monter. Ben oui, c'est ça un peu l'idée. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que vous êtes au-dessus des normales de saison.
Ben voilà. C'est-à-dire que d'ici 10-11 ans, les normales, la moyenne aura augmenté.
Ben
donc
voilà.
Finalement, la normale de saison, elle sera déjà à 35 ou 36.
Et quoi. C'est comme ça, par exemple, que pour un mois de juillet sur Lyon, les normales de saison sont passées au début du siècle, c'est-à-dire en 1900 et des brouettes, hein, c'était le moment où on les faisait, de 23 degrés en normale de saison au mois de juillet, et qu'à l'heure actuelle, elles sont autour de 28 degrés. Donc, vous voyez, c'est aussi une façon de voir le réchauffement et le dérèglement climatique par cette donnée-là. Alors, je voulais vous parler de deux choses qui sont sorties récemment, scientifiquement démontrées, je tiens à le dire. Si quelqu'un nous écoute et dit « Non, c'est pas vrai », je vous invite à aller chercher les études parce qu'elles ont toutes été faites au moins trois fois, c'est-à-dire qu'elles sont validées d'un point de vue scientifique. Donc d'abord, la première, c'est des études qui portent sur le Gulf Stream. Et le Gulf Stream et les courants marins en général, El Niño, El Niña aussi, dont vous avez déjà entendu parler. Et en fait, on pensait que ces courants allaient se dérégler du fait de la fonte des glaces. Parce que je vous rappelle qu'un courant marin, c'est un différentiel de température d'un point A à un point B, mais c'est aussi un différentiel de salinité. C'est-à-dire que plus l'eau est salée et moins elle est salée, ça crée un différentiel et l'eau se met en mouvement. Et en réalité, on a découvert que bah, non seulement il s'est déréglé, mais surtout ça se dérègle 10 fois plus vite que ce qu'on avait prévu. Alors il y a des gens qui disent « Oh mais ils sont mauvais ces scientifiques !» Alors les scientifiques ils répondent « Non, en fait on n'avait pas de schéma de départ, hein, donc on y allait un petit peu au doigt mouillé. » Ce qui est normal, c'est le principe de la science quand quelque chose se produit et qu'on ne s'y attend pas. Et en fait ils ont repris les chiffres, repris les études. Hein, donc le Gulf Stream a été étudié pendant 4 ans pour arriver à cette étude-là. Et en fait, bah, ça va 10 fois plus vite. C'est-à-dire que le Gulfstream s'est ralenti. Hein, ça, c'est aussi une des raisons des canicules, d'ailleurs, en France, voilà, ou des canicules que vous pouvez aussi avoir au Canada.
Parce que ces courants ont une interaction sur le climat.
En fait, les courants marins, on les connaît pas bien, hein, nous, hein, parce qu'on est. Mais par contre, les gens qui habitent en bord d'océan, ils savent ce que c'est. C'est les fameux fronts de mer. Vous savez, quand vous voyez un petit peu à distance de là, il fait du soleil au-dessus de vous. Et puis, un peu plus loin sur le front de mer, comme on dit, eh ben, il y a des nuages. Et puis ces nuages, ils avancent pas. C'est un peu étrange. On se dit, tiens, c'est drôle, ces nuages, ils avancent pas. Ben, en fait, c'est parce qu'il y a un courant marin en dessous. Et en fait, le fait qu'il y ait un courant marin crée des différentiels de température qui bloquent, en fait, ou qui accélèrent l'arrivée des nuages, tout simplement.
Mais oui, ce que je voulais juste dire, c'était que le courant marin a une interaction
sur le climat.
Sur le climat.
Donc le Gulf Stream qui se ralentit, ça crée, en fait, quelque chose qu'on a vu et qu'on a très, très bien vu entre le mois d'avril et le mois de juin. C'est les très, très fortes pluies que nous avons eues ces derniers temps. Mais aussi les épisodes orageux extrêmement violent que nous avons depuis le mois de juin. Parce qu'en fait, il y a plus de masse d'air humide qui arrive sur la partie européenne. Et en fait, cet air très humide, en fait, bah, crée des masses orageuses très compactes, qui donc font des orages qui durent, mais qui aussi sont très violents et envoient beaucoup d'eau. Donc c'est ça, en fait, l'une des choses que le Gulf Stream retenait, c'est ces cellules orageuses. Le Royaume-Uni, lui, il a subi quelque chose d'inverse. C'est que du coup, comme le Gulf Stream a ralenti, il y a moins d'humidité qui a été retenue sur l'Irlande et le Royaume-Uni. Et donc, ils ont connu la première énorme sécheresse, ce qu'ils n'avaient pas depuis des siècles au Royaume-Uni. Et donc, en fait, on voit bien que l'impact se voit visuellement. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder les cartes et de se dire, bah oui, il y a plus plu, en fait, sous forme d'orages violents à tel et tel endroit en Europe. Et le Royaume-Uni, lui, s'est retrouvé privé de pluie. Or, je vous rappelle quand même qu'on dit toujours qu'il pleut tout le temps à Londres, blablabla, blablabla. Mm. Ben, ouais, ça, c'est typiquement le Gulf Stream. Alors, on pourrait dire ça s'arrête là et c'est pas trop grave. Bon, je vous rassure, c'est déjà grave. Hein. Mais ça suffit pas. C'est en fait, il y a des scientifiques qui sont des spécialistes de ce qu'on appelle les courants aériens. Alors les courants aériens, vous en entendez parler quand vous prenez l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Vous savez, on vous dit, on monte à 10 000 mètres d'altitude parce que l'avion est porté par les fameux courants aériens. Et en fait, bah, depuis quelques temps, les compagnies aériennes remarquaient que bah, dans un sens ou dans l'autre, ils consommaient plus ou moins de kérosène. Et donc, ça veut dire que ben, ils allaient plus vite ou moins vite. Et que c'était un peu étrange parce qu'ils avaient pris ces courants d'air-là pour justement consommer moins. Et que d'un coup, ils se retrouvaient à consommer plus de kérosène. La seule explication qu'il y avait, c'est que ben, le courant allait moins vite. Parce que du coup, il portait moins l'avion, et il allait moins loin, moins vite. Ou alors que le différentiel de portée d'air, c'est-à-dire que l'air était plus chaud en altitude, et au lieu d'être un peu plus froid, plus on monte, plus c'est froid, et que ça changeait en fait la portabilité des avions. Donc, ils consommaient plus de kérosène. Donc, bizarrement, c'est les compagnies aériennes en premier qui ont alerté les scientifiques en disant, mais c'est un peu bizarre, parce que finalement, on se retrouve à consommer plus de kérosène. Enfin, c'est plus comme avant. Vous voyez, c'est un peu le truc. Bon, ils sont pas scientifiques, hein. Et les scientifiques se sont dit, oh, tiens, bah, on va peut-être étudier le jet stream. Et alors le jet stream, c'est comme le Gulf Stream, mais dans les airs. Donc c'est pas compliqué. C'est le différentiel de température d'un point à l'autre de la planète qui crée des grands courants d'air. Et c'est fameux, c'est ce qui crée le vent. Le vent, comme Georges vous l'a appris, c'est la rotation de la Terre plus les différentiels de température. Vous n'avez qu'à écouter les causeries astronomiques.
Oh l'autre.
Et donc en fait, eh ben, c'est ces grands courants d'air, ce jet stream, ce qui se produit en fait, c'est qu'il est pas ralenti, il s'est déplacé. Et ça, c'est problématique, parce qu'en fait, le jet stream, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il régule la température au sol. Il est très haut, il est entre 10 et 15 000 mètres d'altitude, hein, c'est-à-dire 10 et 15, à 15 km. Mais en fait, son effet est d'avoir ce qu'on appelle un effet d'enroulement sur les... Voilà, c'est les fameuses... Vous savez, quand vous regardez les cartes, on dit qu'il y a des dépressions, ça tourne dans un sens, c'est un peu sous forme cyclonique. Ben, en fait, ça, c'est le boulot du jet stream, c'est ça, c'est de faire un peu bouger l'atmosphère. Et voilà. Et ce qui se produit, c'est que le jet stream s'est déplacé et qu'en fait, c'est pour ça qu'il est monté vers le nord. Et il est monté vers le nord, ce qui crée quoi ? Bah, ce qui crée qu'il fait plus chaud au pôle nord, donc ce qui va avoir un impact sur le Gulf Stream au passage. Mais surtout, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de climat méditerranéen vers le nord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et ça c'est scientifiquement prouvé, nous vivons une vague de chaleur comme nous en avons rarement vécu, et ce n'est que le début. C'est-à-dire que ces vagues de chaleur-là, on va les vivre quasiment tout le temps, et ça va être de pire en pire. Il y a même des scientifiques qui disent que sous 15 à 30 ans, parce que là c'est pareil, c'est très dur de donner une date précise, les étés au niveau du sud de la France seront des étés de type africain, c'est-à-dire très sec, comme vous pouvez l'avoir sur le Sahara. C'est-à-dire pas une goutte d'eau, extrêmement sec, et des vents arides pendant 60 jours dans l'année, quoi. Et ça, c'est pas un fantasme, hein. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on observe déjà aujourd'hui. Et les scientifiques nous disent, le problème, c'est que Gulf Stream plus Jet Stream qui se dérègle, ils sont aujourd'hui, ils le disent clairement, incapables d'avoir un schéma prédictif sur les 10 à 15, 20 prochaines années qui fonctionne. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'avaient pas prévu et c'était quasiment impossible pour eux que les choses aillent aussi vite. Sauf que ça s'est accéléré. Et ça s'est accéléré pourquoi ? Bah parce que le teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elle a non seulement continué à augmenter, mais elle a surtout augmenté plus vite que ce que l'on avait dit, vu qu'il y avait plein de pays, dont l'Europe, qui avaient caché leur volume exact et réel d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, donc on en est là, et ça a donc des impacts, hein, c'est donc des catastrophes, ça va surtout avoir des impacts sur les zones agricoles, il va falloir repenser l'agriculture, et pas qu'en France, hein, au niveau mondial. Ça va avoir des impacts sur l'eau, parce que l'eau va se déplacer, en fait, très étonnamment, mais elle va se déplacer. Parce qu'en fait, l'eau dépend des pluies, et elle dépend aussi des glaciers, elle dépend de... Voilà. Donc si ça fond et si ça se déplace, ça va se positionner ailleurs, bah forcément, les courants, les fleuves vont se déplacer, ça va devenir aride ou pas. Et surtout, donc, ça va avoir un impact sur les populations. Et là, la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est on fait quoi ? Parce que clairement, il va falloir qu'on donne de la place là où on pourra, où ce sera vivable au maximum de monde et qu'on partage. Et donc aujourd'hui, on ne prend pas trop ce chemin-là. Et c'est un petit peu la problématique que je voulais poser ce soir, c'est que oui, il y a ces deux nouvelles qui sont terribles, qui démontrent d'ailleurs qu'on n'est plus en train d'essayer de lutter contre le dérèglement climatique, mais qu'il va falloir plutôt commencer à s'adapter à, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et que oui, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à balancer du CO2 et tout dans l'atmosphère. Hein. Mais sauf qu'on va avoir une période de réchauffement climatique très violente. Et que donc, du coup, de dérèglement climatique. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, j'avais dans l'idée que ce n'est pas les politiques migratoires actuelles qui vont aider beaucoup, beaucoup de monde, en fait. Voilà.
Ah ben non.
Merci.
Mais je t'en prie, merci à vous. Non, mais effectivement. En fait, ce qui va se créer, c'est qu'il y a un nouvel équilibre qui va devoir se trouver, en fait.
C'est ça.
Mais c'est, nous, on ne sera en maître de rien de tout ça, en fait. Non. C'est selon les forces, on va dire, naturelles, les vents, les machins.
Il y a deux choses qu'on sait, pour être très clair, c'est que l'Europe et le nord des États-Unis, donc jusqu'au Canada, vont être des zones à peu près vivables. Voilà, ça, on le sait. On sait que ça va pas être, on va pas être dans le désert ici. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que tout ce qui est en dessous va se désertifier.
Oui, c'est
jusqu'à
ça.
Après, ce que vous redescendez, l'autre pic du, je sais plus là en bas, je sais plus lequel c'est, et vous redescendez au sud de l'Afrique, donc il reste très peu de, voilà, l'Australie, donc il reste très peu d'endroits où la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, le mode de vie tel qu'on le connaît aujourd'hui sera applicable. Voilà.
Ben oui, et que alors déjà, je pense que toute cette période-là, en fait, pour les politicards, ça sera un moyen aussi d'être ultra sécuritaire et ultra militarisé, parce que je pense qu'effectivement. Si les choses ne sont pas trop maîtrisées et maîtrisables, il va falloir qu'ils maîtrisent les peuples, je pense vraiment. Et qu'effectivement, ensuite, c'est toute cette problématique, c'est vu en fait aujourd'hui le sort qu'on peut réserver à quelques milliers de gens, dont une grosse partie se noie soit dans la Méditerranée,
soit meurt
dans l'école de montagne, soit sont esclavagisés par-ci, par-là. Eh ben, je sais pas, justement, je crains que si on laisse, en fait, la chose à nos gouvernants, eh ben, en fait, ils vont nous mener droit à la guerre, parce que forcément, il s'agira d'accueillir des gens, il s'agira de partager les choses.
Ça, c'est qu'en fait, il va falloir partager.
Et encore, clairement, de manière plus urgente et plus drastique, ou je sais pas comment dire, parce que on aura moins de surface, donc, on va devoir se réunir, être peut-être plus nombreux, sur certains lopins de terre et ça je suis pas sûr qu'en fait nos gouvernements vont nous dire c'est super, accueillons tout le monde les bras ouverts, parce que c'est un petit peu de notre responsabilité à tous, ouais. Qui plus est des pays riches et tout ça,
des pays pauvres.
Mais oui, et c'est ça en fait, et ce que je crains c'est que de toute façon on va tomber là-dedans.
Alors il y a aussi un scientifique dont j'ai perdu le nom, je suis désolé parce que je me l'étais noté mais j'ai complètement paumé son nom, qui expliquait que les mouvements vont aussi être à l'intérieur des pays, pas uniquement à l'extérieur, c'est-à-dire que par exemple il expliquait que le sud de la France risque de devenir assez peu vivable dans les années à venir, donc les gens vont naturellement remonter vers le nord, ce qui est logique. Et bah, même ça, il dit c'est pas évident, ça ne va pas forcément se faire facilement. En fait.
Ah mais non, parce que de toute façon, ça c'est juste que ce seront des gens à l'intérieur même d'un pays, mais ça va être à la même chose en fait, c'est-à-dire réduction des territoires et augmentation de la densité de population, et donc forcément ils vont sûrement essayer de comment dire, enfin je sais pas, je pense qu'il y en a forcément qui vont tirer profit de manière assez dégueulasse, je pense, sur toutes ces choses-là. Ils vont comme faire monter la haine, etc. De chacun pour soi, ils étaient responsables. Et puis, merde, c'est les Bretons qui sont à la mer, ils se débrouillent. Sauf qu'en fait, encore une fois, c'est une problématique bien universelle, en fait.
C'est une problématique humaine.
Ah mais oui, c'est ça. Ah mais clairement, c'est la problématique de tout le monde, dans tous les pays, sur tous les continents, en fait. Et c'est tout ça, et que derrière il y a aussi, parce que là on parle de mouvement de population, mais ça va aussi être la guerre des énergies. Alors on sait bien que les guerres sont toujours économiques, énergétiques, territoriales, etc. Mais je pense que ça va aller en s'accélérant, parce que si on a une rarification de l'eau ou des choses comme ça, ou des territoires même où on peut cultiver,
de quoi faire du courant pour pouvoir mettre de la clim,
de quoi, évidemment, et des terres où on peut cultiver. Enfin, je veux dire, ça a toujours été les raisons des guerres, et je pense que vu la rarification qui se profile, ça sera que pire, en fait, quoi. Sauf si effectivement, peut-être que nous, individus, que nous sommes à peu près 7 milliards, si on enlève les gouvernants, on est quelques milliards toujours encore.
Oui, ça,
on
c'est
est
sûr,
toujours 6 milliards quelque chose. Peut-être que c'est aussi nous, peut-être qu'il faut qu'on revoie un peu nos plans, et peut-être que c'est peut-être ça qu'il faut qu'on voit, quoi.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on commence à se dire que ce qu'on vit aujourd'hui n'est que le début, et que donc en fait on en voit les conséquences, si c'est que le début, ça veut dire qu'il va falloir commencer à réfléchir à l'après, et sérieusement, et qu'il ne faut pas tout attendre de quelque chose de miraculeux. Et voilà, comme tu dis, ça viendra de nous, et pas juste de quelques gouvernants dans un bureau fut-il climatisé.
Ah mais parce que je suis persuadé que eux nous emmèneront à la guerre et à la confrontation, ouais, comme ils le font depuis...
des millénaires.
C'est à peu près ça.
Musique ?
Eh ben allons-y.
Run from me, darling. Run, my good wife. Run from me, darling. You better run for your life. Run from me, baby. Run, my good wife. Run from me, baby. You better run for your life. And each time I see you, I contemplate what I love most of all, your swinging gaze. Run from me, darling. My good wife, run from me, darling. You better run for your life. Run.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org, partout dans le monde et l'univers. Et oui, même pas peur. Et donc, c'était Timber avec Run For Me. Voilà la musique que vous venez d'entendre. Bon, ça plaît pas à tout le monde, mais moi ça me plaît.
J'ai rien dit, on a rien dit.
Non, mais ta tête en dit long.
Alors... Non, ça va, c'est moins pire que la première écoute.
D'accord, là,
c'est mieux. C'est plus agréable.
C'est plus à la deuxième.
C'était le mood.
C'est le mood. Okay. Alors là, on va passer à totalement autre chose. Oui. C'est-à-dire qu'on a décidé de vous diffuser un discours qu'on a entendu, enfin qu'on a chopé sur les réseaux asociaux et les trucs de partage de vidéos. Alors, pour vous replacer un petit peu les choses, cette année, le Festival d'Avignon, vous savez, le Festival de théâtre, hein,
oui,
d'Avignon.
Oui, c'est ça qui va.
Voilà, c'est de ça dont on va parler, avait comme thème le festival fait genre. Voilà, donc c'était l'idée que par la culture, nous interrogions le genre. Voilà, vous voyez, c'est le truc à la mode en ce moment.
Rions du genre.
Rions du genre, tout ça. Sauf que le problème, c'est que ben, y a plusieurs personnes qui sont intervenues en disant, mais c'est un peu du foutage de gueule, parce que. Alors, on interrogeait bien le genre, il n'y a pas de problème, mais il n'y avait que des mecs quasiment partout, hein, et généralement blancs et généralement vieux. Voilà, ça, voilà. Et donc il y a eu plusieurs interventions de groupes féministes, hein, pendant ce festival, mais il y a un discours qui a retenu notre attention, c'est celui de Carole Thibault, qui au cours d'une sorte de parodie des Molières qui s'appelle Le Pavé d'Avignon, voilà, on lui avait demandé de faire un petit discours rigolo, ben en fait elle n'avait pas envie de rire, on vous laisse écouter.
Alors, le Jeanne Laurent, Catherine Bernard, de celle qui fait tout, mais alors tout, est attribué à Carole Thibault.
Autrice, metteuse en scène, comédienne, Carole Thibault dirige depuis janvier 2016 le Théâtre des Îlets, Centre dramatique national de Montluçon, région Auvergne-Rhône-Alpes. Artiste engagée, elle milite pour l'égalité des femmes et des hommes, notamment à travers le mouvement HF. Après avoir mis en scène des œuvres classiques et contemporaines, elle travaille depuis une dizaine d'années à partir de ses propres écritures. Tirant un fil continu entre écriture nouvelle et écriture poétique, elle explore toutes les formes d'écriture et d'expression scénique. En janvier 2018, sera créée au Théâtre des Îlets La Petite Fille qui disait non, abordant le sujet de la transmission.
Merci, Grégory.
J'adore faire la voix.
C'est bavard, ces mecs.
Je vous remercie pour ce Molière. Probablement le seul Molière que je recevrai jamais. Ce n'est pas une question de talent. Il n'est pas question ici de talent. Je suis désolée, j'avais commencé à écrire un truc rigolo. Un de ces trucs pour lesquels on fait appel à moi de temps en temps. Tiens, si on invitait Thibault, elle est rigolote, Thibault. C'est une excitée rigolote. Elle nous casse bien un peu les coucougnettes avec ses histoires d'égalité femmes-hommes, mais elle est rigolote. Elle pique des gueulantes rigolotes, bien brossées, puis elle met des jolies robes, elle porte bien, elle fait des ordres polissés. On devient vite le clown de service, le bouffon du roi. Et ici, le roi, comme ailleurs, c'est la domination masculine. Il a beau faire genre le roi, il est et reste la domination masculine. Et moi, j'en ai marre d'être la bouffonne de service de la domination masculine. Il y a 2 ans, ici même, Thomas m'avait invité à écrire et dire un texte sur l'absence des autrices, des auteurs femmes, donc, dans le Festival d'Avignon depuis sa création. Plus précisément dans la cour, la grande cour du théâtre, la cour d'honneur. La cour d'honneur, c'est comme les Molières. Quand tu es une femme artiste, enfin une de ces femmes qui a la prétention d'être de ce côté-là de la création, je veux dire autrice, metteuse en scène, conceptrice d'œuvres. Quand tu es une de ces bonnes femmes qui a cette prétention-là, tu sais que tout ça n'est pas pour toi. Mets-toi bien ça dans le crâne, petite bonne femme créatrice, la cour d'honneur et les Molières ne sont pas pour toi. Ou alors tente le jeune public. Le jeune public, ici, c'est un endroit réservé aux bonnes femmes créatrices. Il y a 2 ans, donc, j'étais ici même en train de déblatérer un texte sur la quasi-absence des autrices dans le festival IN à l'invitation de Thomas. Cette année, 2 ans après, Thomas joue dans la cour d'honneur et moi je suis de nouveau ici, invité cette fois par David, en train de déblatérer devant vous un texte censé être rigolo et bien enlevé sur la situation des femmes artistes créatrices. Il y a 2 ans, j'avais encore l'espoir que ça change, puisqu'on parlait, on en parlait ici, dans le cadre du festival IN justement, de la non-représentation scandaleuse des femmes dans ce festival depuis sa création. Il y a 2 ans, j'avais mis une belle robe et j'avais donc pondu un truc bien brossé, enlevé, rigolo, à la façon Thibault rigolote. Et tout le monde avait bien ri. Et puis chacune et chacun était reparti à ses petites affaires après notre grande fête estivale du théâtre. cette année, deux ans après donc, la programmation du festival IN, hors jeune public, présente 9% d'autrices femmes pour 91% d'auteurs hommes. Pour les deux spectacles jeunes publics, elles représentent 75%. Cette année, deux ans après, la programmation théâtre représente 89,4% d'artistes créateurs hommes, auteurs et metteurs en scène, pour 10,6% d'artistes créatrices femmes. Cette année, deux ans après, sur la totalité des spectacles et expos programmés dans le festival IN, on recense 25,4% d'artistes créatrices femmes. Et encore, on peut remercier la SACD qui exige dans les sujets à vif la parité. Sans ces petites formes performatives de 30 minutes chaque, il ne faut rien exagérer non plus, on ne serait même pas à 20% d'artistes créatrices femmes programmées. Je parle des spectacles, hein, pas des lectures. Hein. Il suffit d'ouvrir le programme et de compter. C'est ce que j'ai fait l'autre matin. Une fois. Deux fois. Trois fois. Pour être bien sûr. Parce que j'arrivais pas à y croire. Et puis après, je me suis mise à pleurer. Moi, la grande gueule rigolote, je m'y suis mise à pleurer comme une conne. On a beau être habitué. On a beau connaître tous les pièges, tous les cynismes, tous les détours de l'humiliation, être blindé après tant et tant d'années de ça. Il y a des fois où ça craque, malgré tout. Mais franchement, pleurer devant un programme du IN, c'est la honte. C'est minable même. Alors où peut-être un nouveau bateau rempli à bord de femmes, d'enfants, d'hommes, de vieillards sombrés en Méditerranée, avec lui tous ces êtres qui s'en allaient ainsi par le fond nourrir les poissons, nous épargnant d'avoir partagé avec eux nos richesses dégoulinantes de paradis de la consommation. Bref, c'est pas le sujet. Ici, nous sommes dans la grande fête du théâtre et je viens de recevoir un gros pavé. Il faut sourire, mettre des belles robes, être joyeux, léger et quelque peu potache. Mais cette année, je suis désolée David, j'ai pas envie de faire la bouffonne de service en polissant ma colère brossée rigolote dans une joyeuse fête sur le genre. Dans un festival que certains journalistes qui auraient mieux fait de faire leur travail de journaliste ont qualifié de festival féministe. Et encore, c'est loin d'être le pire. Hein. Vous n'avez qu'à faire un tour en ce moment au Festival d'Aix. À côté de la musique, le théâtre fait figure presque de révolution féministe permanente. Cette année, j'en ai ma clap d'être la copine sympa de tous les copains sympas, les copains qui ont plein de copines femmes, les copains qui interrogent le genre, qui interrogent tout ce qu'on voudra pendant que rien ne change. J'en ai ma claque de voir une majorité de femmes muettes, privées de parole, venir s'asseoir dans l'obscurité des salles pour recevoir là, bien sagement, la parole des hommes, la vision du monde portée par des hommes, dessinée par des hommes, en majorité blancs. D'accord pour l'intersectionnalité des luttes, d'accord pour lutter contre les injustices, contre les discriminations, contre la binarité si stupide et pathétique qui gouverne notre monde contemporain si moderne comme il gouvernait l'ancien. Mais comment se fait-il que toute lutte semble écraser et annihiler la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes, et ceci depuis des siècles ? Comment se fait-il que cette lutte-là soit systématiquement écartée, remplacée par une autre lutte ? Les femmes se sont fait niquer à la Révolution française. Elles se sont fait niquer pendant la Commune. Elles se sont fait niquer durant le Front populaire. Elles se sont fait niquer en 68. Et elles se font encore niquer au Festival d'Avignon 2018. Ce grand festival dont le thème revendiqué cette année est le genre. Et dont une des seules rencontres thématiques programmées qui aborde le sujet s'intitule « Les femmes dans le spectacle vivant, doit-on craindre le grand remplacement ?» Je n'épiloguerai pas sur le concept du grand remplacement, concept xénophobe développé actuellement par l'extrême droite. C'est page 27 du programme, si vous voulez vérifier. Et si vous voulez, par hasard, aller y faire un tour aujourd'hui, c'est à 14h30, aujourd'hui même, aux ateliers de la pensée. Et c'est comme ça qu'on se fait niquer depuis des siècles, des décennies, des années, des mois. C'est pas seulement sociétal, politique, ça s'inscrit dans nos chairs, dans les recoins les plus obscurs de nos cerveaux, dans nos inconscients, nos subconscients, ça gangrène toutes nos vies. Ce ne sont pas que des chiffres et des statistiques. Et pourtant cela, il faut les faire, les analyser, pour regarder bien en face notre humiliation, pour regarder bien en face le système qui nous exclut au grand jour, aux yeux de tous, sans que personne n'y trouve à redire. Il faut les analyser, ces chiffres, pour avoir une grille de lecture précise du réel, pour comprendre ce qui se passe réellement.
quitte à se mettre à pleurer alors comme une conne, comme une pauvre fille qui a cru cette fois au grand amour, à la rencontre possible, et qui se retrouve au matin toute seule après s'être fait niquer encore une fois. Bon, on va pas jeter la pierre, ou plutôt le pavé, à Olivier. D'autant plus que là où il doit être aujourd'hui, il doit bouillir sur sa chaise. Et vu la chaleur qu'il fait, il y a eu bien assez de curés qui ont fait cramer des femmes à cause de leur vagin. On va pas se mettre à faire bouillir les artistes directeurs de festivals à cause de leur programmation. Simplement parce qu'ils sont un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Parce que dans la totalité du spectacle vivant aujourd'hui en France, 23% seulement des subventions publiques d'État vont à des projets portés par des artistes femmes. Parce qu'elles ne représentent que 11% des spectacles programmés sur toutes les scènes, et parce qu'elles ne reçoivent que 4 à 12% des pavés, je veux dire des récompenses. C'est pas moi qui le dis, c'est l'État lui-même. Le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Les chiffres sont sur Internet, HCE. Mais après tout, sur les scènes de l'institution, comme on dit, la part des autrices représente environ 22%. Et celle des metteuses en scène, 35%. C'est loin d'être l'égalité, c'est sûr, mais on y travaille peu à peu. Mais pas ici. Du moins, pas encore, apparemment. Oui, cette année, le IN fait genre. Parce qu'on peut revendiquer haut et fort la liberté d'être à loisir homme, femme ou les deux mélangés. Il n'en demeure pas moins que quand tu nais avec un sexe de femme ou quand tu deviens femme, que ce soit par le grand tirage au sort de la nature, ah zut, pas de chance, t'es née avec un vagin, ou par choix, tu fais partie de la caste de celles qui se font baiser, niquer, nier toute leur vie. Parce qu'avant d'être un genre, la sexuation est un déterminisme physiologique totalement arbitraire qui, selon que tu reçois un vagin ou une bite à ta naissance, te prédétermine comme sujet dominant ou dominé. Parce que le phallocentrisme et le patriarcat sont les petits rois qui gouvernent ce pays, et particulièrement ce petit milieu cultivé, si fier de son ouverture d'esprit, si fier de sa soi-disant liberté de création, d'expression, de choix, si fier de ses prérogatives et si donneur de leçons au monde entier. Le phallocentrisme et la domination masculine sont la honte de tout le milieu intellectuel, artistique et culturel de ce pays. Ils sont la honte de chaque artiste de ce pays et d'ailleurs de chaque institution qui ne respecte pas une juste redistribution de l'argent public, de chaque directeur de lieu, de galerie, de festival qui ne fait que représenter et reproduire à l'infini la pensée dominante. L'écrasement des femmes par les hommes est le premier crime contre la pensée humaine. Il produit des millions de meurtres chaque année. C'est un crime qui se perpétue depuis des millénaires et qui se poursuit partout et trouve ses racines malheureusement ici aussi, sur ces espaces sacrés du théâtre qui devraient être au contraire les lieux sacrés de la parole libre et émancipatrice. Je ne veux pas de ta récompense, David. C'est comme un gros pavé reçu en pleine gueule. Et hors les chiffres, désormais, sachez-le, nous ne croirons plus rien pour ne plus subir la honte de pleurer encore.
Et bien voilà, vous êtes de retour dans la causerie, toujours avec ce discours donc de
Carole Thibault.
Carole Thibault au Festival d'Avignon. Et bien alors, quoi en dire ? Ben déjà que je trouve que sa colère fait du bien. C'est avec plein de vrais mots. J'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire c'est pas lissé parce que encore une fois on s'adresse à un milieu cultivé, etc., et on pourrait prendre des concepts et en fait non quoi. En fait je trouve que ça c'est déjà c'est une grosse claque en fait, parce que justement je pense qu'on aime bien avoir notre beau langage polissé qui est tellement propre et qui est tellement lisse et qui finalement des fois ça fait du bien en fait, juste de parler comme on le ressent en fait, un peu plus ouais, ça vient un peu plus des tripes en fait quoi. Il y a quelque chose vraiment d'intéressant et je la trouve hyper courageuse finalement, c'est en plus parce que c'est des potes à elle en fait.
Oui, tout à fait.
Et je veux dire, je sais pas, vous toutes qui nous écoutez ou ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez pu évoluer dans des collectifs ou autres, des fois ça a du mal à se dire des choses quoi. Là, je veux dire, elle trouve le courage quand même de devant une scène de gens, enfin devant une foule, une salle de gens avec enfin voilà, c'est public quoi. Et ben Et ben elle dit juste à son pote, bah tu me fais chier en fait quoi. Tu t'assumes pas, enfin t'es pas à la hauteur de ce que tu devrais être quoi. Et je trouve que c'est d'un courage, enfin c'est waouh, c'est rafraîchissant.
Ça fait du bien.
Oui.
En tout cas, vous pouvez retrouver ce discours assez facilement sur les différentes plateformes de partage vidéo. Et je vous invite vraiment aussi à aller voir l'image, parce que au-delà du son, il y a aussi l'image, il y a aussi tout la mise en scène qui est faite autour. Et finalement, on voit qu'elle arrive en mettant un grand coup de pied dans la fourmilière au moment où on l'attend le moins. Et c'est bien, parce que c'est aussi, pour moi, le rôle de l'art, des fois, de parler vrai, comme on dit, et de le faire avec beaucoup d'aplomb. Et voilà. Donc, allez voir les images, c'est vraiment...
Bah ouais,
vraiment...
Et de gratter là où...
D'appuyer.
D'appuyer, oui, oui, oui. Et ce que je trouve justement intéressant, c'est qu'en plus, elle-même, elle le dit, enfin, dans ce milieu où finalement, on aime tellement, enfin, on est tellement ouvert, on est tellement... Ben qu'en fait on reproduit juste la société comme elle est, c'est-à-dire patriarcale, sexiste, etc. Et que je trouve que c'est très intéressant d'entendre quand même des voix ces derniers temps dans différents milieux. Là je pense aussi aux universités où il ouais. y a des voix de victimes, de femmes, etc. qui commencent de plus en plus à l'ouvrir et à sortir sur l'extérieur en disant c'est ça qui se passe aussi dans nos milieux qui sont si élevés, si intellectuels, si... Ben non en fait quoi. Et que ça prouve encore une fois que le patriarcat, la domination masculine, bah elle a, on sait qu'elle n'a pas vraiment de classe, hein, elle se retrouve chez les pauvres, chez les riches, mais elle n'a pas le milieu social spécifique.
Tout à fait.
C'est juste qu'elle va changer de langage, de mots.
De forme.
De forme, c'est ça, ouais, très bien. Ouais. De forme, mais que finalement, c'est partout pareil. Et c'est ça qui doit nous alerter, ne pas croire que nous vivons tous dans des superbes milieux qui sont superbes. Non, il faut les interroger aussi, tous ces milieux dans lesquels on vit, dans lesquels on évolue, parce que finalement, et puis, on peut le voir même dans différents trucs ou proches de nous, quoi. C'est, ben oui, en fait, même dans le milieu militant, enfin, moi, je suis dans un milieu militant à Dirana. Les femmes, c'est pas forcément aussi non plus les personnes qu'on voit le plus et qu'on... Mais parce que derrière, on est dans une société où aussi la place des femmes, est-ce qu'on leur laisse penser même que c'est là aussi ? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a aussi le conditionnement ? Et comme elle le dit, il y a un gros conditionnement...
Au départ,
quoi. Enfin, bref. On écoute un titre.
Oui.
On revient pour les brèves, très courtes, et on...
Et on s'en va après.
Ah oui, c'est ça.
Je colonise ton sein pas à pas, je domine le reste. Tout ça m'appartient en deux et en un seul geste. Tu seras le mien, tu verras, je serai ta secte. Je t'érigerai exactement tout comme je le souhaite. Je marquerai ton bout de mes visques suçons, pour pas que tu cours vers d'autres vices cochons. Je tâcherai ta moue et un à un de tes cheveux longs, de mon drapeau rouge et de mes imposants jurons. Tu ne seras que fier quand alors tu joueras les mères, lorsque je t'offrirai soudain tout un tas de joyeux gamins. Tu n'auras qu'à faire à l'heure et surtout bien te taire. Tu auras alors à terme une grande envolée de bons points. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil, la cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. J'épuiserai ta flamme pour remplir mes mains du nerf de la guerre et comme un grand malin. Moi je jouerai aux dames, moi je ferai conquête sans trop que je tarde, juste un poil malhonnête. Tu seras sans fringue et bien à ma guise. Je t'habillerai de rien, juste de poigne possessive. Ils le verront bien que la terre est déjà prise. Ils verront mon flingue, oui mieux que ma main mise. Me chargerai aussi que tu n'aies plus de choix. T'étaleras ainsi tout un tas de lois que tu repasseras sans te commander. Car il n'y a que toi qui sais bien les plier. Puis je te caresserai comme pour t'apaiser. T'imposerai des chutes pour pas te révolter. Te bloquerai la nuque sans que tu révulses. Et je serai doux pute. Je serai fou. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes.
Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace, en flamme, en flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace, en flamme, en flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. Quoi n'as-tu plus besoin de mon torse? Quoi n'as-tu plus besoin de moi lorsque dans la rue tu seras seul sans escorte? Dis-moi comment vas-tu faire sans écorce? Quoi n'as-tu plus besoin de conseils? Quoi n'as-tu plus besoin de mes règles? Entends mes forts, je t'aime et te surveille. Tu verras comme dehors c'est sans soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace, en flamme, en flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace, en flamme, en flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, et plus précisément La Causerie, comme tous les dimanches de 22h à 23h. On vient de s'écouter un titre d'Eddie De Preto, Quartier des Lunes. Et ben voilà, je vous invite à écouter ce que fait ce jeune homme, même si vous en avez sûrement entendu
beaucoup parler
ces derniers temps. Ces derniers temps. En tout cas, je pense que ses textes et ses sujets sont assez intéressants, et je trouve que son point de vue, des fois, change beaucoup. Là où on est beaucoup dans l'affirmation du virilisme dans beaucoup de milieux, je trouve que c'est intéressant que lui vienne nous dire « réinterrogeons ça ». Bref, eh bien, on termine rapidement avec des brèves, j'en ai une.
Oui, bah vas-y.
C'est ça. Donc, c'est, alors vous vous souvenez, on avait reçu, alors je ne sais plus quand, mais on avait reçu l'association Fraco. Ouais. Voilà. Et en fait, eh ben, cet asso organise son premier festival. C'est les Fracofolies. Fracofolies, je ne sais pas. C'est le samedi 25 août. Ouais, c'est pas tout de suite, tout de suite. C'est dans un mois. Mais nous, on reviendra juste à ce moment-là. Donc, on ne pourrait pas vous l'annoncer. Donc, à noter dans vos agendas, les Fracofolies, le samedi 25 et le dimanche 26 août. Ça a lieu à la maison Ferber à Caluire. Alors j'ai tapé sur internet, sur justement le réseau social ou tout ça, vous tapez Fracofolies à Caluire, c'est donc un festival de solidarité internationale, interassociatif et participatif. Au programme, il y a de la poésie, de la musique, du kung-fu, des expos, de la danse et même des jeux géants. Donc voilà, je pense que c'est aussi l'idée de faire exister la solidarité tout en étant aussi dans un cadre un petit peu plus détendu qu'on ne peut l'être des fois dans la lutte. Donc voilà, donc les Fracofolies, 25 et 26 août.
Alors, on rappelle juste que Fraco, ça veut dire fraternité coexiste.
C'est ça. C'était ce que je cherchais. Je l'avais plus à l'esprit. Merci.
Et on salue Clara, qu'on avait reçue à l'époque pour l'assaut.
Tout à fait. Et bah, l'autre info, c'est bah, la causerie qui reviendra donc le dimanche.
Alors, j'en ai une autre avant. Ah. Excuse-moi, parce que je viens de le vérifier. Donc, vous savez qu'il y avait pas mal d'aides pour les sans-papiers ou les travailleurs sans-papiers qui étaient faits donc à l'UDCGT ou qui étaient faits aussi à la Lutine, tout ça. Donc, tout s'arrête là au mois d'août. Bon, bah, faute de militants, hein, ça peut toujours un peu le même problème. Par contre, je sais que de façon sûre qu'il y aura d'afficher sur les différents lieux qui existaient des numéros d'urgence que vous pouvez appeler. Donc, oui, il faut se déplacer parce qu'en fait, ils les ont pas mis en ligne. Mais voilà, sur les lieux, vous aurez des numéros s'il y a des besoins urgents, des gens que vous pouvez joindre. Voilà, donc déplacez-vous soit à l'UDCGT, soit à la Lutine. Il y aura de quoi vous renseigner si vous avez des personnes sans papier autour de vous qui ont besoin d'un coup de main. Voilà, parce qu'au mois d'août, ça ne s'arrête pas. Hein.
Ben non.
Les RAF non plus, d'ailleurs, malheureusement.
Rien ne s'arrête.
Et donc, oui, tu disais, la terrible nouvelle, c'est que nous ne sommes plus là-bas jusqu'au 26 août.
C'est ça, nous reviendrons le 26 août. Pas forcément toute l'équipe, mais en tout cas, on commencera tout doucement la reprise. Et bien, alors, nous, on vous souhaite à celles et ceux qui ont la chance de pouvoir partir, bah, de bonnes vacances là où vous allez, amusez-vous, profitez, découvrez. Pour celles et ceux qui n'ont pas la chance, pas les moyens, pas les capacités physiques de partir en vacances, et ben on vous souhaite du courage là où vous êtes. Avec les températures, c'est encore moins facile. On vous souhaite que Radio Canut puisse quand même vous accompagner avec ses bandes continues.
Ouais. Et les émissions qui sont là.
Et les émissions et qui sont encore là. Il y en a, ouais. Il y a, je crois, Blasphème FM qui est là, j'ai cru entendre.
Oui, il y a Fanny, il me semble, qui est là avec son émission de reggae le dimanche, non, le samedi 13h.
C'est ça. Voilà. Donc pour les autres, bah, tendez l'oreille, restez l'oreille.
Donc c'est dimanche 13h, Fanny, pardon.
C'est ça.
Stand firm.
Restez les oreilles branchées sur le 102.2 et plein d'autres choses ailleurs. Profitez, sortez si vous pouvez.
Et si on vous manque trop, il faut aller sur blogs.radiocanu.org/lacauserie. Vous pouvez écouter toutes les causeries depuis la numéro 1, qui était la meilleure de toutes, jusqu'à 262, qui était la pire de toutes. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à lacauseriecanu@gmail.com, à nous dire s'il y a même des sujets que vous avez envie d'aborder, même vous, ou qu'on aborde, des choses que vous pensez qu'on devrait connaître. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des sources si vous avez aussi des choses que vous voulez partager avec nous. Ce sera avec plaisir. La causerie, comme on l'a écrit, c'est un petit peu de vous, un petit peu de nous et beaucoup de plein de choses. Donc voilà, du coup, profitons de ces vacances aussi, entre guillemets, d'émission, vacances pas là, pour dialoguer. Ne perdons pas le fil.
Mais
on se retrouve le 26 août.
Ben oui, si la causerie te manque, tu envoies un petit mail à lacauseriecanu@gmail.com. Tu nous dis coucou et on te dira coucou nous aussi.
Oui, faites des coucous comme ça.
Et des bisous, évidemment, parce qu'on est généreux. Eh ben, on vous souhaite de bonnes vacances, bon courage aussi pour celles et ceux qui bossent, parce que genre tout le monde est en vacances ou n'ont pas en capacité de partir en vacances, mais non, en fait, il y en a qui bossent aussi.
J'ai une grande pensée pour ceux qui vont refaire le bitume, par exemple, du cours Émile Zola durant le mois d'août, toutes les nuits. Voilà, j'ai une grande pensée pour eux, parce que je me suis dit c'est horrible comme truc, enfin en plein mois d'août, tout travailler toute la nuit pour refaire du bitume.
Voilà. Ah mais monsieur, il faut que la société elle tourne, dites-moi. Eh bien, bonne soirée, bonne continuation à vous, et rendez-vous donc dimanche 26 août pour la nouvelle causerie.
Salut.
Ciao.
Et on se quitte avec les Marx Sisters. Allez, bonne écoute. Und Regen, wo es kein Brüder